Je pense que, comme moi, vous avez eu l'occasion de visiter un des châteaux de la Loire ou un autre lieu intéressant sous la conduite d'une personne compétente. C'est un événement banal. Ce qui l'est moins est l'expérience du prophète Ézéchiel qui a eu le privilège d'examiner dans ses moindres détails le futur temple qui sera construit au début du règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur terre. Le chapitre 41 de son livre continue cette visite avec un être angélique pour guide. Je commence de le lire en compressant tout au long. L'homme me fit ensuite entrer dans la grande salle du temple. Il s'agit du lieu saint où Ézéchiel a accès parce qu'il est prêtre. Après avoir pris quelques mesures, l'ange pénètre ensuite dans le lieu très saint, où seul le grand prêtre peut accéder une fois par an pour le grand jour du pardon appelé Yom Kippour. Cette pièce a la forme d'un cube et ses dimensions sont les mêmes que le lieu très saint du temple de Salomon. L'ange continue ses mesures et Ézéchiel écrit que l'intérieur des murs du sanctuaire est garni d'un lambris de bois jusqu'à la hauteur des fenêtres. Et on avait sculpté des chérubins et des palmiers, un palmier entre deux chérubins. Chaque chérubin avait deux faces, une face d'homme tournée vers l'un des palmiers et une face de lion tournée vers l'autre. Depuis le sol jusqu'au-dessus de la porte, il y avait des chérubins et des palmiers sur le mur du temple. La porte de la grande salle était décorée de chérubins et de palmiers, comme les parois. Les chérubins sont les gardiens de la sainteté divine. Ici, ils n'ont que deux faces, l'une d'homme et l'autre de lion, pour représenter l'humanité et la royauté du Messie. Je continue. Devant le lieu saint, il y avait quelque chose qui ressemblait à un autel de bois haut de 3 coudées et long de 2 coudées. Ses coins, son socle et ses parois étaient en bois. L'homme me dit, « Voici la table qui est devant l'Éternel. » Cette table de bois, de petite dimension, placée à l'extérieur du lieu très saint, ne remplit pas la fonction d'un autel. C'est à la fois l'autel des parfums et la table qui porte les pains exposés devant l'Éternel. Deux meubles qui se trouvent dans les temples précédents, mais qui n'existent pas dans celui-ci. Cette table, qui est encore mentionnée plus loin, fait penser à un repas de famille. Elle symbolise une des plus grandes intimités que, par le passé, dans la célébration du culte. Je finis de lire le chapitre 41. La grande salle et le lieu saint avaient chacun une double porte à 2 battants pivotants. Le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint a disparu et est remplacé par une simple porte à 2 battants. Cette facilité d'accès rappelle que le chemin qui mène à Dieu est désormais grand ouvert à quiconque veut bien se donner la peine d'entrer. Nous arrivons au chapitre 42 qui décrit les structures sur 3 étages situés le long du mur sud, nord et ouest du sanctuaire et qui servent de salle à manger et de vestiaires aux prêtres. De tels locaux n'existent pas dans les temples précédents. Je lis un extrait de ce chapitre. L'homme me dit, les salles du côté nord et celles du côté sud qui donnent sur l'espace libre sont les salles du sanctuaire où les prêtres qui officient pour l'Éternel, mangeront les aliments très saints. C'est là qu'ils les déposeront, ainsi que l'offrande de gâteaux et la viande des sacrifices pour le péché et des sacrifices de réparation, car ce lieu est saint. Les prêtres ont le droit de manger certaines parties d'animaux sacrifiés. Je continue. Une fois entrés, les prêtres ne sortiront pas du lieu saint pour aller dans le parvis extérieur, sans avoir déposé là les vêtements avec lesquels ils auront fait le service, car ces vêtements sont saints. Ils revêtiront d'autres habits avant de s'approcher des parties réservées au peuple. Ce passage montre le souci d'une séparation stricte entre les sphères du sacré et du profane. Je continue et finis le chapitre 42. Lorsque l'homme eut ainsi achevé de mesurer l'intérieur du temple, il me fait sortir par la porte orientale et il mesura l'enceinte tout autour de l'édifice. Il mesura les quatre côtés, et il avait là une muraille dont la longueur et la largeur faisaient 500 coudées pour séparer le sacré du profane. Au début de la visite, l'ange a mesuré la hauteur et l'épaisseur du mur extérieur qui forme un carré de 3,40 m de côté. Puis il a mesuré le parvis extérieur qui est la cour intérieure du complexe du temple. Sur trois côtés et contre le mur se trouvent 30 salles dont 20 sont pour l'usage des lévites et 10 pour les serviteurs du temple. Ensuite, l'ange mesure le parvis intérieur, aussi appelé « cour des prêtres », parce qu'il donne accès au lieu saint et au lieu très saint. Puis il a aussi mesuré tous les locaux réservés aux prêtres. Ensuite, il a pris les dimensions de l'enceinte extérieure, qui est un carré d'un peu plus de 280 mètres de côté. La description du complexe du temple et des bâtiments annexes qui contient est terminée et nous arrivons au chapitre 43. Mais avant de passer en détail des différentes cérémonies qui seront célébrées, Ézéchiel nous fait voir l'Éternel qui vient personnellement consacrer par sa présence le nouvel édifice qu'il promet d'habiter à tout jamais. Cette vision de Dieu qui entre dans sa maison nouvellement construite et le pendant d'une part de l'entrée de l'Éternel dans le tabernacle, ce qui est raconté dans le livre de l'Exode, et d'autre part de l'entrée de l'Éternel dans le temple de Salomon. Ce retour est aussi la contrepartie de l'abandon du temple par l'Éternel avant que Jérusalem ne soit détruite. Je commence à lire le chapitre 43. Puis l'homme me conduisit vers la porte orientale. Alors, la gloire du Dieu d'Israël arrivait par le côté est. Sa voix était comme celle des grandes eaux, et la terre était illuminée de sa gloire. L'entrée orientale est la porte de nord du temple parce qu'elle conduit directement au sanctuaire. La gloire de Dieu revient de l'est, la direction vers laquelle elle était partie. Je dis en passant que la gloire de l'Éternel n'est pas revenue dans le temple de Zorobabel et d'Hérode. Je continue le texte plus loin. L'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel remplissait le temple. Ce phénomène a déjà eu lieu lors de la consécration du tabernacle et du temple de Salomon. C'est donc la troisième fois qu'il se produit. Je continue. Tandis que l'homme se tenait toujours à mes côtés, j'entendis quelqu'un qui me parlait depuis l'intérieur de la maison. Il me dit, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai mes pieds et où j'habiterai pour toujours au milieu des Israélites. » Quand cette vision se réalisera, Dieu prendra possession d'une habitation parfaite et permanente sur terre. Il s'agit du règne du Messie pendant le millénium. Je continue. Et ni la communauté d'Israël, ni ses rois ne me mépriseront plus. Moi qui suis saint, par leur prostitution et leur haut lieu, par les cadavres de leurs rois, en accolant le seuil de leur demeure comme mon seuil, en les montant de leurs portes comme les miens, de sorte qu'il n'y avait qu'un mur mitoyen entre eux et moi. Oui, ils m'ont ainsi méprisé, moi qui suis saint, par les abominations qu'ils ont commises. C'est pour cela que je les ai consumés dans ma colère. C'est une douloureuse parenthèse pour Dieu. L'expression « les cadavres de leur roi » désigne les fausses divinités que les rois de Juda ont installées dans le temple. En fait, à une époque, chaque entrée du temple était consacrée à une idole différente. Ces faux dieux sont appelés cadavres, à cause de leur nature inerte et souillée par opposition aux dieux vivants. Le rappel de ce sacrilège, de l'insolence et de l'intrusion de ces idoles provoque l'indignation de l'Éternel. Je continue. Désormais, ils éloigneront de moi leur prostitution ainsi que les cadavres de leur roi, et j'habiterai pour toujours au milieu d'eux. L'Éternel referme la parenthèse d'indignation et répète sur un ton doux l'affirmation précédente qu'il habitera pour toujours au milieu de son peuple. Cette perspective agréable a calmé sa colère momentanée. Je continue. Quant à toi, fils d'homme, décris ce temple à la communauté d'Israël pour qu'ils aient honte de leurs péchés et qu'ils mesurent les plans de cet édifice. La description du nouveau temple saint, que dans son amour patient l'Éternel élève et consacre aux Israélites, a pour but de les conduire à la repentance. Il faut aussi qu'ils mesurent les plans de cet édifice. Il s'agit d'une part des dimensions générales harmonieuses du complexe du temple et d'autre part, Dieu veut que les Israélites mesurent, par rapport au don de sa grâce, l'étendue et la gravité de leurs péchés. Ensuite, Ézéchiel décrit en détail l'autel des holocaustes qui jusqu'à présent n'a été mentionné qu'en passant. Il se trouve au milieu du complexe du temple et c'est le point focal du nouveau culte. Cet autel est constitué de trois parallèles épipèdes superposés assis sur une base. Comme leur surface diminue de l'un à l'autre jusqu'au sommet, il s'agit d'une construction en gradin ayant un aspect régulier. L'ensemble est carré et ses dimensions extérieures sont un peu plus grandes que l'autel du temple de Salomon, qui faisait 5 mètres haut et 10 de côté, mais qui ne possédait pas de degré. Je continue plus loin. L'homme maudit, fils d'homme, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Les prescriptions concernant l'autel pour le jour où il sera construit, afin d'y offrir l'holocauste et d'y faire l'aspersion du sang, sont les suivantes. Pendant 7 jours consécutifs, tu offriras chaque jour un bouc en sacrifice pour le péché, puis un jeune taureau et un bélier sans défaut pris dans le troupeau. Le texte donne tous les détails du rituel de l'inauguration de l'autel des holocaustes. La cérémonie décrite est analogue à celle célébrée lors du tabernacle, puis du temple de Salomon et de Zorobabel furent mises en service et qui durèrent aussi 7 jours. Cependant, il existe quand même des différences dont je vous ferai grâce. Le texte mentionne aussi que du sel doit être jeté sur les holocaustes et probablement aussi sur tous les autres sacrifices. On comprend pourquoi, quand on sait que dans les Écritures, le sel représente la sincérité et la force de caractère de celui qui demeure juste et droit, quelles que soient ses circonstances. Je finis de lire le chapitre 43. Une fois ces jours passés, les prêtres offriront sur l'autel le 8e jour et les jours suivants vos holocaustes et vos sacrifices de communion. Je vous accueillerai, le Seigneur l'Éternel le déclare. Une fois la consécration de l'autel accomplie, on peut adorer Dieu au moyen de sacrifices qui sont des sacrifices de communion et des holocaustes, car après avoir été égorgé, l'animal est entièrement brûlé. Les premiers expriment la reconnaissance de l'homme pour toutes les bénédictions divines, et les seconds symbolisent la consécration totale à Dieu. Les sacrifices d'expiation du péché ne sont mentionnés que lors des deux grandes époques de fête. Elles sont offertes pour l'ensemble du peuple ainsi que pour purifier le sanctuaire. Dans tous ces chapitres sur le nouveau temple, les seules fautes spécifiquement mentionnées sont celles d'inadvertance et d'ignorance, ce qui se comprend, car le monde entier étant sous le régime théocratique du Messie, ceux qui ne marchent pas droit sont sanctionnés sur le champ. Nous arrivons au chapitre 44 qui mentionne ceux qui ont accès au sanctuaire et qui décrit également les fonctions des prêtres. Je commence de le lire. L'homme fit revenir du côté de la porte extérieure orientale du sanctuaire. Elle était fermée. Alors l'Éternel me dit, cette porte restera fermée, on ne l'ouvrira plus et personne n'entrera par elle, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera donc fermée. Le guide d'Ézéchiel a appelé l'Éternel, ce qui prouve qu'il s'agit de l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire la troisième personne de la Trinité qui devint homme en Jésus-Christ. La porte orientale qui donne accès à la cour intérieure du complexe du Temple reste toujours fermée pour honorer l'Éternel qui est passé par celle-ci et pour indiquer qu'il n'en repartira plus. Ce serait profaner l'Éternel que d'emprunter ce passage. Cette porte n'est pas à confondre avec la porte orientale de la ville de Jérusalem actuelle qui est aujourd'hui fermée. Je continue. Toutefois, le prince, en sa qualité de prince, s'y assiera pour prendre son repas devant l'Éternel. On y entrera par le portique de la porte et sortira par le même chemin. La porte orientale extérieure qui donne accès au complexe du temple reste fermée. Mais celle qui est dans son prolongement et qui s'ouvre sur la cour des prêtres est ouverte. C'est par là que les prêtres pénètrent dans le lieu saint du sanctuaire. Le prince ira, où bon lui semble, sauf qu'il ne peut pas franchir la porte orientale extérieure comme qui, je l'ai dit, reste toujours fermée. Le prince est un personnage très important, bien que le texte ne dise pas grand-chose sur lui. Il peut s'agir du roi David lui-même ressuscité ou de quelqu'un de sa lignée qui occupe la fonction de vice-roi ou de régent et qui administre le royaume. Ce qui est sûr est qu'il ne peut pas être le Messie puisqu'il offre des sacrifices pour le péché pour lui-même et qu'il se prosterne devant l'Éternel. Je continue en compressant. Fils d'homme, dis à ces rebelles, c'en est assez de tous vos actes abominables, communauté d'Israël. Vous avez fait pénétrer dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis dans leur corps, afin de profaner mon temple. Vous ne vous êtes pas acquitté pour moi du service relatif aux choses saintes. Vous avez chargé des étrangers d'accomplir à votre place le service pour moi dans mon sanctuaire. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Dieu s'adresse aux Lévites et aux prêtres. Dans le passé, Israël a introduit des païens non prosélytes et non circoncis dans le temple en qualité d'officiants lors de la célébration des sacrifices, alors que seuls les prêtres ont ce droit et privilège. Le péché des Israélites est donc double. Ils se sont déchargés d'un service sacré qu'ils jugeaient déplaisant et en ont chargé des païens. Dorénavant, auront seulement accès au sanctuaire les prêtres qui sont aussi circoncis de cœur. Les Juifs et les païens qui entreront dans le royaume du Messie sont ceux qui auront placé leur foi en lui et qui auront échappé aux persécutions de l'Antichrist. Ces personnes constitueront la population du monde, posséderont un corps comme vous et moi, et auront des enfants qui se convertiront ou pas à Jésus-Christ. Dans le millénium, un juif au cœur incirconcis sera assimilé à un païen pur et dur, tandis qu'un étranger qui aura foi dans le Messie sera un enfant du royaume. C'est la circoncision du cœur, et non pas celle de la chair, qui est la condition requise pour participer au culte de l'Éternel. Je continue en compressant et finis de lire le chapitre 44. Quant aux fonctions des Lévites qui se sont éloignés de moi, lorsqu'Israël s'est séparé loin de moi pour se tourner vers ses idoles, ils porteront la responsabilité de leur faute. Ils assureront dans mon sanctuaire le service de portier et le service du temple. Ce sont eux qui égorgeront pour le peuple les victimes des holocaustes et des sacrifices, et ils se tiendront à la disposition du peuple pour le servir. Mais les prêtres lévites, issus de Tsadok, qui ont continué à accomplir le service de mon sanctuaire, quand les Israélites s'égaraient loin de moi, eux s'approcheront de moi pour me servir, et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Dans le temple, seuls les descendants de Tsadok ont le droit d'officier en présence de l'Éternel. les autres familles de prêtres sont déchues de leur position et ne peuvent accomplir que des tâches subalternes parce que leurs ancêtres n'ont pas été fidèles à l'Éternel. La suite du texte, jusqu'à la fin du chapitre 44, énonce ce qui est exigé des prêtres afin qu'ils soient rituellement purs. À quelques détails près, on retrouve ces prescriptions dans le livre de Moïse. Comme pendant le millénium, il n'y aura pas de grand prêtre, ce qui, sous la loi, était exigé de lui, est dorénavant la responsabilité de toute la prêtrise. En dehors des fonctions du culte proprement dit, le devoir des membres du clergé était l'enseignement de la loi et la fonction de juge. Pour ce qui est des revenus des prêtres, ils seront conformes à ce qu'ils étaient sous la loi de Moïse. Voilà, c'était un peu rébarbatif, j'en conviens. Nous arrivons au chapitre 45 dans lequel Ézéchiel aborde la question des héritages des prêtres et des lévites parce que leur patrimoine ne sera pas comme celui des autres tribus qui vont chacune recevoir un territoire en Israël. Ce nouveau partage du pays rappelle évidemment celui qu'avait effectué Josué. Je commence à lire le chapitre 45 en compressant. Quand vous répartirez le pays en lots, vous en réserverez une partie pour l'offrir à l'Éternel. Elle aura 25 000 coudées de long sur 10 000 de large. Elle sera sainte dans toute son étendue. Un territoire de 25 000 coudées sur 10 000 de large appartiendra aux Lévites qui accompliront le service du temple. Ils y posséderont 20 salles. Adjacent à la ville de Jérusalem, côté nord, un terrain d'environ 13,5 km de long, dans le sens est-ouest, sur 10,5 km de large, sera séparé sur sa longueur en deux parties égales. Celle qui est attenante à la ville sera réservée au complexe du temple et aux habitations des prêtres. Et la seconde moitié, qui elle est contiguë côté nord, sera pour les Lévites qui travaillent au temple. À l'intérieur du temple, 20 chambres leur sont réservées. Elles se trouvent sur le pourtour extérieur de la cour d'entrée. Les 10 autres, puisqu'il y en a 30, sont pour les gardiens du temple. Je continue. Pour la ville, vous délimiterez une bande de territoire de 5 000 coudées de large sur 25 000 de long. Elle appartiendra à toute la communauté d'Israël. Côté sud, et attenant au rectangle où se trouve le temple et les habitations des prêtres, une ville sera construite au milieu d'un terrain de 2,5 km de large sur 10,5 de long. Il s'agit de Jérusalem, bien qu'elle ne soit jamais expressément nommée. Ce sera la capitale fédérale du monde et sa population se composera de représentants de toutes les tribus d'Israël et sans aucun doute d'ambassadeurs de toutes les nations. Je continue. Vous réserverez aux princes deux zones de part et d'autre du domaine du sanctuaire et du territoire de la ville. L'une d'un côté ouest, l'autre du côté est. La longueur de chacun de ces lots correspondra à celle des lots des tribus depuis la frontière occidentale jusqu'à la frontière orientale. Ce sera son domaine, sa propriété en Israël. Les trois territoires décrits précédemment, le temple et les habitations des prêtres, les propriétés des Lévites et Jérusalem avec ses terrains, forment ensemble un carré de 13,5 km de côté. De part et d'autre de ce carré, les deux bandes de terrain, l'une allant à l'ouest jusqu'à la mer Méditerranée et l'autre allant à l'est jusqu'au Jourdain, seront la propriété du prince. Comme un petit croquis vaut mieux qu'un long discours, vous pourrez trouver un plan de ce que je viens de décrire dans certaines Bibles avec commentaires.